est beau, c'est vraiment ciselé par 95 années de vie, 80 ans de souvenirs à revoir, à repenser, à nous apporter tout ça, ce cadeau extraordinaire qu'elle nous fait aujourd'hui de nous raconter sa vie et ses pensées qui sont magnifiques, soit des toutes petites choses quand elle dit rire et pleurer son sœur et frère, ou bien des choses qui, enfin, que nous sommes en train de partager. Donc, les Arméniens, les rescapés, vont essayer de survivre en Syrie, au Liban, et ça va être difficile parce que les conditions dans ces pays-là sont très difficiles. Et enfin, en 1922, ils arrivent en France, la Société des Nations les attribue aux pays qui ont besoin de main-d'œuvre. Alors les Arméniens vont arriver en masse à partir de 1922. Ils vont arriver d'abord à Marseille, ils vont vivre là, survivre dans des conditions très difficiles. Il y a encore beaucoup d'Arméniens à Marseille et ils vont vivre là dans des baraquements, dans des bidonvilles, ça va être vachement dur. Et puis petit à petit, ben, ils vont monter, ils vont essayer de trouver du boulot à Aix, à Valence. Très nombreux, il y a toujours une communauté importante à Valence, à Lyon et puis à Paris, où ils vont s'installer dans des endroits comme Alfortville, comme ici les Moulineaux. Et les arrivées avec retour impossible, ils sont apatrides pour la plupart, vont s'échelonner jusqu'en 1932. Et c'est en 1931 qu'arrive notre époux.
De Turquie, je n'avais rien à faire, je n'avais personne. Pourquoi rester ?
Quand est-ce que vous arrivez en France ?
En France, 1930-31.
Vous partez en bateau ?
En bateau, je suis allée d'abord en Allemagne, parce qu'en Allemagne, j'avais un oncle, le frère de mon père, mais je voyais que je commence à gêner. Je ne peux pas manger. Je gênais, je suis charge.
Vous étiez une charge.
J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais une cousine qui était en Roumanie. Il est venu en France pour travailler. Alors, il m'a dit, si quelqu'un sait prendre une aiguille, elle peut gagner sa vie.
Si quelqu'un sait prendre une aiguille, il peut gagner sa vie.
Je ne savais rien, mais quand même, j'ai dit, au moins, j'ai une cousine. Nous serons ensemble. Qu'est-ce que nous serons? Alors, je suis venu en France.
Qu'est-ce que vous aviez dans vos bagages?
Rien, des habits, rien, je n'avais rien.
Vous aviez de l'argent ?
Non, un petit peu, peut-être quelque chose. Je n'avais pas grand-chose, non.
Et vous aviez une adresse, celle de votre cousine ?
Oui, je suis venue comme ça. Elle vivait dans une chambre et une cuisine, trois personnes. Et encore moi, quatre personnes, une chambre et une cuisine. À Clamart.
À Clamart.
Je couchais avec la petite fille de 12-11 ans et mari et femme ensemble dans une chambre.
Et alors, vous vous êtes mise à travailler ?
Non, pas tout de suite, mais d'abord, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'on fait, les autres. Je ne savais pas prendre aiguille, je ne savais rien du tout. En regardant les vitrines, en regardant les habits, tout ça, petit à petit, j'ai appris à coudre. Toute seule. Maintenant, je peux faire cette tailleur toute seule. Je mettais sur la chaise la machine. Moi, je restais sur mes valises. Et comme ça, je travaillais. Nous avons travaillé très dur. Très, très dur.
Il y en a à qui ce petit bruit rappelle beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants ont été bercés par le bruit de ces machines à coudre dans certaines banlieues, arméniennes ou non. Et aujourd'hui, les enfants qui ont entendu ça étant petits se trouvent quelquefois, ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont aussi quelquefois journalistes.
Nous gagnons un peu, nous faisions économie. Nous sommes les Arméniens, ils sont habitués d'économiser, arranger, de bonnes journées et mauvaises journées. Nous sommes habitués pour ça.
Ah.
Mais maintenant en Arménie, vous voyez, il n'y a rien à manger, mais personne ne meurt pas devant. On s'arrange. Le peuple arménien est fait pour souffrir.